Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Bien, en RDC, on parle de plus en plus de la biométrie en ce qui concerne les documents délivrés par certaines institutions. On peut citer les documents tels que les passeports et permis de conduire. La confusion règne encore chez certains compatriotes qui ne comprennent pas bien la différence qui existe entre les documents semi-biométriques comme les passeports et ainsi que les passeports, je voulais dire, biométriques. Alors, c'est quoi la biométrie? Quelles sont les caractéristiques d'un document biométrique? Comment reconnaître un document biométrique? Eh bien, nous allons parler de tout cela dans l'émission au Capi Service aujourd'hui avec Monsieur Jean-Didier Batoubenga. Il est chef des travaux, chercheur à l'Université de Kinshasa, doctorant en informatique, orientation, intelligence artificielle et biométrie. Jean-Didier Batoubenga, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Jordi.
Alors, on parle de plus en plus des passeports semi-biométriques et des passeports biométriques. Alors, dites-nous, d'abord, c'est quoi la biométrie?
Oui, la biométrie, c'est une science qui relève de l'intelligence artificielle, notamment en informatique, qui a pour particularité de pouvoir prendre en charge toutes les données des types mesurables sur un être humain. C'est un domaine qui permet de pouvoir mettre au point des systèmes informatiques capables de pouvoir identifier ou encore authentifier une personne à partir de ces données, notamment des types biologiques, morphologiques ou comportementaux.
Voilà un exemple.
Oui, il y a plusieurs applications qui portent sur le domaine de la biométrie. Notamment, il y a des portes qui sont verrouillé par des systèmes biométriques où il faudrait être reconnu à partir des empreintes digitales, oui. Pour pouvoir avoir accès à un local ou à une zone qui est sécurisée. Nous avons des coffres-forts biométriques et nous avons par ailleurs aussi des systèmes de reconnaissance dans les domaines de l'informatique avec les souris d'ordinateurs qui sont biométriques, qui ne peuvent reconnaître que l'unique utilisateur à partir des empreintes. D'autant plus que l'avantage que présente la biométrie, c'est le fait que les caractéristiques qui sont prises en charge ici sont uniques à chaque individu.
Telles que les empreintes digitales, quoi d'autre?
Il y a les empreintes digitales notamment, il y a aussi la reconnaissance faciale, il y a la reconnaissance basée sur la structure de l'ADN, il y a la reconnaissance qui peut être basée sur la salive, la reconnaissance qui peut être basée sur la vitesse de frappe sur un clavier et sur la démarche aussi de l'individu. Donc, j'essaie de prendre chaque élément par rapport à chaque type de reconnaissance biométrique.
Mais il semble qu'il y a d'autres reconnaissances basées sur l'odeur de la personne.
Oui, justement. Ça relève effectivement du type de données biologiques. À partir de l'odeur d'une personne, il y a moyen qu'un système reconnaisse qu'il s'agit bien d'une personne déterminée.
Il y a par exemple dans certains endroits, quand vous arrivez, vous vous approchez de l'entrée principale, les battants s'ouvrent, de même ça reconnaît la présence d'une personne.
Oui, oui.
On peut dire que c'est aussi un système de reconnaissance.
Exactement, c'est un système de reconnaissance qui peut être basé sur la morphologie, la forme de la personne, ou encore à partir des yeux. Parce qu'il y a parfois certains capteurs qui peuvent être à distance, mais qui ont pour particularité de pouvoir prendre l'image de l'œil, où on peut baser la reconnaissance sur l'iris ou soit sur les réseaux veineux, et dès que on vous reconnaît par le système, la porte s'ouvre automatiquement pour vous donner accès.
Voilà. Alors, quelle est la différence qu'on peut établir entre un document semi-biométrique et un document biométrique?
Oui, il y a une différence entre ces deux types de documents, dans ce sens que avec les documents semi-biométriques, nous avons les caractéristiques comme l'empreinte qui est imprimer sous sa forme sur les documents avec des données portant sur l'état civil de la personne. Tandis qu'avec un document qui est biométrique, nous avons justement une carte électronique qui est chargée de pouvoir garder, stocker certaines informations de type biométrique, mais sous format numérique. Généralement, on a l'habitude de pouvoir garder la photo de la personne sous un format numérique et aussi beaucoup plus les empreintes de deux doigts généralement qui sont stockées mais sous un format numérique.
Là, c'est la
le document biométrique.
Biométrique.
Oui.
Alors, les documents semi-biométriques n'ont pas tout cela.
Les documents semi-biométriques n'ont pas de carte pouvant stocker des informations biométriques de manière numérique.
On parle d'une puce qui est installée dans
le niveau du passeport. Exactement. Juste, la plupart des passeports sous d'autres cieux utilisent ces formats-là avec une puce juste sur la page de la couverture.
Qui est incorporé.
Incorporé effectivement sur le document.
Et là-dedans, on a quel type d'informations? Les informations sur la...
L'identité sur de la personne. Oui. Effectivement, les porteurs du passeport. Et on a aussi des informations sur son visage avec en format numérique. Et on a aussi des informations sur ses empreintes digitales.
Et quoi d'autre? C'est fini?
C'est cela les informations qui intéressent effectivement les documents de type passeport. Mais dans d'autres domaines, il y a d'autres informations supplémentaires qui peuvent y être stockées. Donc tout dépend de la taille de la mémoire de la carte où on peut y mettre beaucoup plus d'informations. C'est comme dernièrement, dans le cadre de la réforme de l'enseignement, il a été proposé un projet de pouvoir mettre à la disposition des étudiants de l'ensemble de la République démocratique du Congo un document qui devait contenir les informations utiles par rapport à leur parcours académique. Donc on pouvait y mettre les données sur les résultats des différentes sessions, s'ils ont effectivement réussi ou pas, pour que on évite toute situation de falsification des documents papier.
Voilà, donc à partir d'une puce, on peut avoir toutes les informations possibles dont on a besoin sur un individu, sur une personne.
Oui, les informations qui sont prévues pour l'application, justement, on peut les avoir sans problème.
L'importance d'avoir des documents biométriques aujourd'hui?
Les documents biométriques...
À part les autres raisons que vous avez déjà évoquées.
Bon, oui. À part le fait qu'on peut y mettre des informations des différentes portées et des informations importantes, mais c'est plus l'aspect sécurisation qui est de mise avec ce type de documents. Parce qu'il est difficile de pouvoir arriver à falsifier ou encore à pouvoir se substituer. Une autre personne ne peut pas se substituer pour pouvoir user de ces documents-là parce que ça contient des informations qui sont personnelles à l'individu, au porteur du document.
Donc, difficile de falsifier les documents. C'est beaucoup plus pour augmenter la sécurité. Alors, vous voulez participer, vous voulez intervenir par rapport à ces sujets, appelez-nous au 099-706-6394, 099-706-6394. Nous parlons de la différence qui existe à un document semi-biométrique et biométrique. Appelez au 099-706-6394.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Quelle est la différence entre un document semi-biométrique et biométrique? Nous en parlons dans Okapi Service aujourd'hui avec Jean-Didier Batoubenga, chercheur à l'Université de Kinshasa, doctorant en informatique, orientation, intelligence artificielle et biométrie. Alain Roy nous appelle de Kananga. Bonjour.
Bonjour, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
D'accord, demander à l'invité, je n'ai pas bien saisi vraiment la différence entre la biométrique et la biométrique. Je vais encore demander pourquoi est-ce que le passeport congolais est le passeport congolais.
Oui, on vous entend pas très bien, veuillez vous déplacer un peu, peut-être que la qualité de la communication va s'améliorer, c'est fait?
Oui, j'ai
vu. Non, on vous entend pas toujours bien, Alain Roy.
Allô?
Oui, allez-y.
Je vais les garanties, la différence. La géométrique, la série géométrique. Pour passer cette position, je voudrais encore demander l'invité de dire pourquoi est-ce que le point actuel est appelé série géométrique et sur quel critère on peut dire que c'est passé par premier géométrique ou série géométrique.
D'accord. Il n'a pas bien saisi la différence entre les documents semi-biométriques et biométriques. Monsieur Jean Didier.
Ok, merci Monsieur Alain pour votre question. Je vais y répondre en disant que la différence existe entre ces deux types de documents. Les documents semi-biométriques contiennent des informations sur l'identité de la personne et notamment on y met juste la forme de l'empreinte sur les documents. C'est comme les cartes actuelles des lecteurs qu'on nous livre où il y a le schéma de l'empreinte qui est dessus. Mais cela ne fait pas de ces documents-là un document biométrique. Les documents biométriques doivent avoir une carte électronique qui est censée contenir des informations numérisées sur des caractéristiques comme les empreintes ainsi que le visage du porteur et que ces éléments-là sont en format numérique. Ce n'est pas la forme qui est imprimée sur les documents biométriques, mais c'est plutôt des caractéristiques qui sont extraites et qui sont mesurables et comparables facilement avec les systèmes informatiques qui sont imprimés sur cette carte puce.
Voilà, la différence c'est que l'un n'a pas une carte puce et l'autre comporte une carte puce électronique dans laquelle sont logées les informations sur l'identité de la personne. À part la présence de la carte puce, y a-t-il d'autres éléments et des différenciations?
Oui, cette carte puce contient des informations sous format numérique. Par exemple, pour ce qui est des empreintes, dans la carte, on n'y conserve pas la forme des empreintes. Parce que chaque individu a sa forme, effectivement, ses particularités en ce qui concerne les empreintes digitales. Mais ce que l'on récupère, certainement, ce sont des points caractéristiques qu'on appelle des munitions. Ce sont ces éléments-là, leur position et leur valeur que on se garde sur la carte et qui peut être comparé à des données que l'on détient dans le système pour vérifier s'il s'agit bien de la personne ou pas.
Voilà, c'est là que se trouve la différence. Est-ce qu'on doit parler de la biométrie seulement en ce qui concerne les passeports, mais ça peut toucher tous les documents que nous utilisons?
Non, la biométrie n'est pas simplement utilisée dans le cas de passeport. C'est utilisé pour la plupart des documents qui ont une certaine valeur et dont on voudrait plus sécuriser, hein, de manière à ce que quelqu'un qui n'a pas le droit d'user de ces documents-là ne puisse pas en jouir si jamais on essaie de vérifier l'identité de la personne.
Donc on peut dire que l'ancien passeport était, on pouvait beaucoup falsifier les informations.
Bon, il y avait un certain degré de sécurité,
oui.
De telle sorte que la reconnaissance basée sur les empreintes utilisait des anciennes méthodes qui sont d'une certaine manière limitées sur le plan de la performance.
Mais et que le document était vraiment très, on pouvait les falsifier facilement.
Facilement, oui, justement. Il y avait lieu que quelqu'un puisse se faire passer pour une autre personne. Il suffit de pouvoir changer les données, par exemple, sur l'identité, et que les choses peuvent passer.
Quelle est la différence entre un document semi-biométrique et biométrique? On en parle aujourd'hui avec notre invité Jean-Didier Batouvenga. Appelez au 099-706-6394, 099-706-6394. Mais vous avez suivi que cette affaire des passeports a fait couler beaucoup d'encre et des salives parce que les gens ne comprennent pas trop bien. Ils se disent, est-ce que c'était vraiment le moment opportun de pouvoir procéder à tous ces changements?
Oui, bon, moi je ne suis pas là dans le cadre de la politique, mais je suis venu en tant que scientifique pouvoir expliquer la différence qu'il y a entre ces deux types de documents. Mais néanmoins, l'aspect politique, on peut laisser ça aux politiciens, c'est à eux de pouvoir déterminer à quel moment il y a opportunité ou il y a non-opportunité de pouvoir prendre des décisions au sujet de la régularisation les documents à utiliser sur l'étendue du territoire national ainsi qu'à l'étranger.
Voilà, ainsi qu'à l'étranger. Et pouvez-vous encore nous rappeler les avantages qu'il y a à mettre en place ces systèmes biométriques, pas seulement pour les passeports, mais dans d'autres domaines? Quels sont les autres domaines dans lesquels on peut l'utiliser et quels sont les avantages y afférents?
Bon, les avantages sont multiples, notamment parce que les données biométriques sont des données qui sont infalsifiables, sont des données qui sont permanentes, sont des données qui sont individuelles, c'est-à-dire par rapport à une personne. Et vous voyez, même deux jumeaux univitellins qui proviennent pratiquement d'une même souche ont des empreintes digitales tout à fait différentes. Et donc, à ce moment-là, on ne peut pas... Donc, un imposteur ne peut pas jouir de droits dont il ne dépend pas par rapport à l'utilisation d'un document qui est biométrique. Et en dehors de ça, la carte puce peut avoir une mémoire de grande capacité pour y stocker beaucoup plus d'informations sensibles qui peuvent donc aider à pouvoir résoudre certaines questions par rapport au domaine ou soit à l'application mise en place.
Est-ce qu'il n'y a pas de danger que la carte puce aussi soit, je sais pas moi, manipulée ou il y a toujours certaines personnes qui sont très intelligentes et qui savent comment contourner tout cela?
Oui, oui, le danger se présente justement. C'est pour cette raison-là que la mise en place du système biométrique avait été proposé parce que ici, dans certaines applications, la personne doit se présenter physiquement pour pouvoir exhiber donc ses caractéristiques-là par rapport au système pour mettre en exergue donc cette reconnaissance. Mais avec un document, quelqu'un d'autre peut vous voler ces documents et aller l'utiliser à des fins, par exemple, de récupérer de l'argent dans votre compte ou soit d'en faire autre chose. C'est là le danger quand les documents n'est pas à votre portée, que quelqu'un d'autre vous substitue ces documents.
Mais généralement, quand vous allez à l'aéroport, par exemple, à l'immigration, vous donnez votre passeport, on fait passer sur une machine, on a immédiatement toutes vos informations, que ce soit un passeport semi-biométrique ou biométrique.
Oui, justement. Donc, le système qui est mis en place, c'est tout un programme qui permet de pouvoir, à partir d'une clé identifiée, qui vous identifie, notamment l'empreinte est, pour le cas d'un système biométrique, considéré comme la clé de recherche. Et à partir de ça, on peut, dans la base de données, retrouver les autres informations vous concernant.
Symphorien nous appelle de Kananga. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à OCT Jean Diva Toubengé.
On vous écoute.
Oui, j'ai deux préoccupations. La première, c'est de demander au OCT Jean Didier quels sont les domaines qui interviennent plus concrètement dans la biométrie. Parce qu'il a parlé de l'intelligence artificielle. J'ai aussi entendu parler des cartes électroniques. Bon, à part l'électronique, je crois aussi l'électronique et l'informatique. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour pouvoir mettre en place un système et biométrie? Et en plus, je voulais demander, il était en train de parler des systèmes, donc, de la falsification, parce qu'actuellement, vraiment, avec les systèmes de scannage, les documents ne sont pas tellement authentifiés. Quel est l'apport de la biométrie dans les systèmes des documents, par exemple, comme les diplômes et autres?
D'accord. Monsieur Jean-Didier Batoubé.
Oui, merci, monsieur Symphorien, qui nous appelle depuis Kananga. Je dirais que au sujet donc de la falsification, donc il se pose un problème parce que la carte électronique, même si vous voulez la photocopier, les données ne seront pas visibles. On ne pourra pas récupérer les données qui sont en format numérique sur cette carte-là. C'est beaucoup plus sécurisant par rapport à un document papier où on peut faire la photocopie de bonne qualité et observer toutes les coordonnées donc comme il se doit. Et par rapport aux applications, les applications, j'en ai cité quelques-unes, comme l'utilisation donc des empreintes digitales pour accéder à une salle ou à un espace sécurisé, pour l'ouverture d'un coffre-fort, pour pouvoir démarrer automatiquement certains véhicules de grande valeur qui doivent être sécurisés. Nous avons aussi des applications qui portent sur des transactions dans certaines banques où il faudrait qu'on reconnaisse effectivement la personne qui a droit à accéder à certaines
informations.
Oui.
D'accord. Il parle des diplômes. Est-ce qu'on peut aussi arriver si je peux le dire ainsi, à biométriser les diplômes?
Oui, donc, c'est-à-dire, quand on parle d'un document biométrique, il s'agit d'un document papier sur lequel il faudrait qu'on puisse incorporer une carte, une puce électronique devant contenir certaines informations qui sont personnelles à l'individu qui permettront à ce qu'on puisse associer ces documents-là à son porteur des droits.
Et on peut le faire aussi pour tout document, que ce soit pour les diplômes aussi.
Oui, pour tous les documents importants, effectivement, on peut le faire. Mais sinon, il faut tenir compte du coût qui va être revu par rapport à cette technologie qui va être incorporée sur le document.
Onésime nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, je vais poser une question à M. Batou Benga. Bon, il a dit qu'avec le passeport biométrique, nous avons de PIS qui permet de mettre toutes les informations de l'individu. Alors, je me demande que si on veut maintenant, par rapport à l'accès de la personne, est-ce que dans chaque ambassade ou bien dans chaque endroit quelconque où la personne va se présenter avec son passeport, il y aura-t-il des lecteurs qui va permettre de faire la lecture de cette piste-là biométrique pour identifier la personne ou comment?
Monsieur Jean Didier.
Ok, merci Monsieur Onésime. J'affirme ce que vous êtes en train de dire parce que la lecture des données qui se trouvent sur une carte exige à ce que l'on puisse avoir un capteur approprié, c'est-à-dire un instrument qui matériel, je voulais dire, qui sera capable de pouvoir lire les données qui sont incorporées sur la carte. Et donc, je pense que vous me donnez aussi la possibilité de pouvoir évoquer la difficulté qu'on pourrait connaître si on veut étendre ça dans certains domaines où l'accès au matériel pourra poser problème, comme dans le cadre de l'enseignement supérieur universitaire où on voudrait mettre au point ce type de documents. Il faut le moyen qui permettra effectivement à ce que l'on puisse disposer à tous les endroits d'un outil, d'un capteur capable de pouvoir lire et reconnaître effectivement les informations qui sont dans cette carte.
Et quel est le type de matériel dont on a besoin? Vous parlez des capteurs. Faut-il avoir tout simplement des ordinateurs avec le programme incorporé pour pouvoir effectuer ces contrôles ou bien il faut ajouter d'autres matériels?
Pour le système biométrique, on a toujours eu des capteurs. Ce sont des périphériques qui sont chargés de pouvoir donc prendre l'image de la caractéristique, comme par exemple pour l'empreinte, pour le visage, pour tous les autres paramètres, c'est la même chose. Et cet appareil-là doit disposer d'un programme capable de pouvoir convertir les informations qui ont été recueillies en format numérique pour ensuite être utilisées dans un environnement informatique.
Bien, nous avons en ligne Jules depuis Lubumbashi. Quelle est la différence entre un document semi-biométrique et biométrique? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Jules, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je salue l'invité et vous aussi.
Merci, bon, on vous écoute.
C'est juste un petit ajout, hein, parce que j'ai avec moi des passeports. Les miens, congolais et de la Belgique. Je trouve que bon, les passeports semi-biométriques ou biométriques, c'est presque la même, c'est une même famille parce que il y a des identités ici, de celles de la Belgique et celles de l'autre, c'est presque la même chose. Je crois que c'est au niveau peut-être de l'ordinateur là où on peut celle biométrique gardait beaucoup des données
par rapport Jules,
à la tenue biométrique. Donc,
Jules,
c'est ce que je vois. Donc,
Jules, est-ce que l'un des passeports que vous tenez a une puce, une carte électronique à incorporer?
Oui.
Voilà, tous les deux ont des cartes puces incorporées ou pas?
Oui, parce que je vois qu'ici, il y a cette, la première page, c'est presque la nôtre. Donc, il y a les identités, tout ça, et des petits trucs, mais sinon, c'est la même chose. je sais pas, c'est juste c'est au niveau de l'ordinateur ou quoi, là où on peut identifier la personne avec toutes les pas ses identités. Donc je crois que c'est la même chose.
Voilà, alors notre invité va répondre, monsieur Jean Didier.
Oui, monsieur Jules, je n'ai pas personnellement ces deux types de passeports belges devant moi pour pouvoir vérifier hein, ce que vous êtes en train de dire. Mais sinon, je dirais tout simplement que les passeports biométriques contiennent des informations sur les empreintes digitales ainsi que sur la photo du porteur en format numérique. Ce ne sont, c'est pas la forme des empreintes que l'on conserve ou soit la forme du visage, mais c'est plutôt ce sont des données qui sont associées à ces visages ou soit à ces empreintes qui sont stockées sur la puce électronique pour le format biométrique. Mais pour ce qui est semi-biométrique, les informations sont stockées sur l'empreinte ainsi que sur le visage et d'autres données, mais ce n'est pas sous format numérique, mais c'est plutôt sous format image. Parce qu'en informatique, il y a aussi possibilité de pouvoir stocker l'image d'un individu, même dans une base de données, mais en format image, mais pas que son correspondant en format numérique.
Voilà. Mais quand vous allez dans certains pays, par exemple, au niveau de l'aéroport, vous arrivez, on vous dit de placer votre visage devant un appareil qui capte, je crois, les yeux, la forme de vos yeux. C'est toujours de la biométrie.
Oui, oui, exactement, c'est de la biométrie. Mais ça, c'est de la biométrie qui est basée soit sur les réseaux, donc venin, ou soit encore c'est basé sur l'iris de l'œil. Ou encore sur la rétine, ça dépend effectivement.
C'est toujours un système de reconnaissance.
Exactement.
Biométrique.
Oui, oui, tout à fait.
Nous avons Kans en ligne depuis la Belgique. Kans, bonjour.
Oui, alors bonjour. Bonjour aussi à notre invité. Je remercie la radio Capi pour me donner cette opportunité d'intervenir. Je voudrais intervenir par rapport à ce que notre invité est en train de dire.
Oui.
J'ai des préoccupations. C'est très très important ce qu'il est en train d'expliquer là-bas. Moi personnellement, je suis informaticien et je voulais lui poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas moyen en tant qu'universitaire là-bas, j'aide le gouvernement congolais à comprendre comment cette biométrie va travailler après. Ce n'est pas seulement avoir cette puce électronique qui contient les documents, qui contient les données de la personne, mais on doit suivre une base de données qui est derrière, qui doit garder les informations qui sont sur la puce. Est-ce que l'université ne peut pas aider le gouvernement à les expliquer que ce n'est pas seulement ça, puisque j'ai comme l'impression que nous ne sommes pas préparés à avoir cette biométrie. Puisque derrière la biométrie, c'est vraiment un énorme travail qu'il faut effectuer, quoi. Est-ce qu'ils ont essayé de parler ou bien approcher le décideur de notre pays pour les expliquer qu'il y a un système qui est derrière? Et aussi, ma deuxième préoccupation est de savoir, par exemple, pour le permis de conduire biométrique qui vont sortir, nos agents, nos policiers, nos roulages qui sont dans la rue, comment ils vont détecter que cette personne a un bon document, puisqu'ils n'ont pas les appareils pour détecter, puisqu'on ne doit pas seulement voir le permis avec une puce et savoir que c'est vraiment un bon permis. Il y a moyen de faire une puce qui ne fonctionne pas, mais si le policier qui va contrôler, il ne sait pas lire cette puce, il ne saura pas que c'est un bon document. Est-ce qu'il y a moyen d'aider le gouvernement en tant qu'universitaire, leur donner les informations? Je ne sais pas s'ils ont ces informations-là. Merci,
Merci Kans qui nous a appelé de la Belgique. Kapala, vous êtes à Moba, bonjour, et quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup. Avant que je commence, je tiens aussi à saluer M. Jean Didier Batubenga et à tous les auditeurs, M. Jody Kachamara. Avant que je pose la question, je vous dis que je suis très très content de la thématique du jour. Parlant du document semi-biométrique et biométrique, Monsieur Jean Dédier Batoubenga, je vais à la migration, j'exhibe mon document qui soit semi-biométrique ou non. On insère dans la machine et que cette machine lit toutes les données. Désormais, ça aura quelle répercussion du fait que toute identité est mise au grand jour. Merci, M. Jody.
Bien, merci, Kapala Demoba. Jean Didier.
Ok, merci. Je vais commencer par remercier les deux intervenants et répondre à leurs préoccupations. Pour le premier, il est tout à fait vrai que par rapport au permis de conduire biométrique, que les policiers donc de la circulation routière auront du mal à pouvoir identifier si le permis présenté brandi par un chauffeur est valable ou pas, ou ce n'est pas une falsification. Mais néanmoins, je pense que des mesures doivent accompagner toute décision prise par des autorités, du genre, par exemple, mettre des appareils au niveau des postes qui sont rattachés à chaque point de circulation. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle généralement les sous-SIAT. Si on peut avoir des lecteurs à ce niveau-là, il y a lieu que l'on puisse, à partir de quelqu'un qui a, par exemple, commis un accident ou un forfait, il peut être fiché. Et ces données-là sont stockées dans sa carte puce de telle manière que
déjà que notre administration n'a pas toute la logistique informatique pour faire fonctionner ces choses. Donc il y a, comme le disait Kans de Belgique, il y a toute une logistique qui vient après. Est-ce qu'on est prêt pour faire tout cela?
Bon, là c'est
ça prendra peut-être
aux
du temps.
Aux dirigeants de pouvoir nous dire s'ils seront à même de pouvoir
disponibiliser. Non, lui s'est demandé si vous, en tant qu'universitaire,
sinon,
vous avez approché.
Mais sinon, ça demande suffisamment de moyens. Ça va demander, à une technologie, il faut toujours des moyens à disponibiliser pour pouvoir mettre ça à exécution. Ça, il a parfaitement raison. C'est une approche que j'étais en train de donner pour dire que non, on peut par exemple arracher le permis de conduire d'un chauffeur qui a eu à commettre beaucoup plus d'accidents à partir des données qui ont été enregistrées, et ça sécuriserait effectivement la circulation donc routière dans notre pays. Là, ce sont des approches pour donner des éventuelles solutions, mais qui nécessitera beaucoup de moyens par rapport au matériel à disponibiliser au niveau de ces différents points que nous avons cités. Et quant à ce qui concerne
Mais il affirme que le gouvernement doit travailler avec les universitaires pour aider à mettre en place
cette
logistique.
Parce que quand nous sommes en train de dire que nous travaillons dans le domaine de la biométrie, c'est pour affirmer que il y a des systèmes que nous avons développés nous-mêmes et avec nos étudiants qui effectivement travaillent dans le cadre de la reconnaissance à partir de certaines caractéristiques biométriques. Ça existe. Et
vous avez développé
une base
des applications.
De données. Oui, tout à fait. Et il y a une base de données, effectivement, qui est en arrière-plan. Parce que quand on parle de l'identification, il s'agit de pouvoir vérifier les données qui sont lues au sujet d'un porteur, et on compare ça aux données qui sont déjà stockées dans la base de données pour pouvoir identifier la personne et relever d'autres informations supplémentaires concernant la personne. Mais avec la carte, il y a des données qui peuvent être aussi en même temps incorporées dans la carte puce, telles qu'avec la lecture à partir de l'appareil spécialisé, on peut déjà arriver à avoir certaines informations dont le porteur circule avec ces informations déjà incorporées dans sa carte.
D'accord. Et par rapport à Kapala Demoba qui dit que lorsqu'on fait passer les documents au scanner, on a toutes les informations sur la personne, alors il voit pas l'opportunité de tout ce changement.
Oui. Donc c'est vrai que même avec le document semi-biométrique, quand une fois on fait passer effectivement ces documents-là sur le capteur, on sait avoir les informations concernant l'individu sur la base de données qui contient des informations, et donc c'est la manière à sécuriser effectivement la population que ces types de technologies sont mises en place. Mais avec les documents biométriques, il n'y a pas que des informations portant sur l'identité de la personne et qu'on doit aller chercher d'autres informations dans la base de données, mais les informations de la, donc au sujet de la personne, au-delà de son identité, peuvent aussi être directement incorporées dans cette puce-là.
Et le document est beaucoup plus sécurisé que le
SIMI. Et avec la technologie utilisée, effectivement, c'est beaucoup plus sécurisant.
Bien, on va accueillir Boukassa qui nous appelle de Mbujimayi. Ensuite, nous allons donner la parole à William. On commence avec vous, Boukassa. Bonjour. Boukassa, vous êtes à Mbujimayi, à Kinshasa. Bonjour. Il n'est plus là. William de Mbujimayi, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, William.
Bonjour. Ouais, j'aimerais savoir, vraiment, je remercie à l'époque pour le sujet.
Veuillez réduire le volume de votre radio, William, ou carrément éteindre parce que ça dérange. Vous allez sur la partie de votre téléphone, s'il vous plaît.
Ah, ok, je l'ai fait.
D'accord, allez-y.
Ouais, j'ai demandé à notre invité de laisser les prérogatives qui donne un document semi-biométrique par rapport à un document biométrique.
Vous parlez des prérogatives.
Oui, des avantages que le document semi-biométrique par rapport à un document biométrique.
D'accord, merci Monsieur Jean Didier.
Bon, parler d'avantages, c'est, disons, limiter la technologie, peut-être que le coût est moins cher, c'est cela l'unique avantage qu'on pourra présenter. Mais néanmoins, ici, on a toujours tendance à pouvoir aller vers une technologie de pointe où on ajoute encore des moyens pour pouvoir garantir la sécurité dans les domaines. Alors, l'idéal, c'est de pouvoir, avec le temps, une bonne politique, migrer vers des documents biométriques.
Et ça, j'imagine que ça demande un peu plus de temps pour faire cette migration, passer des documents semi-biométriques aux documents biométriques. Parce qu'il y a toute une logistique, parce que vous l'avez dit, vous l'avez relevé tout à l'heure, une logistique qu'il faut commencer par mettre en place pour en arriver là.
Oui, tout à fait, il faudrait le moyen, parce que pour exécuter un projet, tout dépend aussi des moyens disponibilisés. Si les moyens sont là, il y a moyen que l'on puisse disponibiliser tout ce qu'il y a comme capteur pour la lecture des données biométriques et les placer à tous les postes frontières, par exemple pour ceux qui ont des passeports, pour pouvoir les utiliser sans problème.
Et vous avez dit que les documents biométriques ça fait des analyses biologiques sur la personne. On peut reconnaître la personne à partir de son odeur, du sens, de la salive, des urines et même de l'ADN.
Exactement.
Oui. Et puis vous avez dit tout à l'heure aussi que la biométrie permet de faire des analyses aussi comportementales par rapport au comportement de la personne, et puis l'analyse morphologique, les empreintes digitales, forme de la main, les traits du visage et tout ça. Est-ce que tout cela sera mis en place ici chez nous, ou bien on va se limiter tout simplement aux empreintes digitales pour stocker les informations dans la puce électronique?
Non, même sous d'autres essieux. Quand on parle de documents biométriques, on ne se limite qu'aux caractéristiques portant sur les empreintes digitales. C'est déjà suffisant. Mais c'est avec d'autres applications où, quand on veut augmenter le niveau de performance, que on peut effectivement utiliser des systèmes multimodaux qui incorporent plusieurs caractéristiques à la fois.
Et tout cela demande aussi beaucoup de moyens.
Oui, ça demande.
Et la logistique aussi.
Oui, tout à fait. Exactement, il faut disponibiliser les moyens pour le matériel ainsi que les logiciels qui seront associés.
Et parlez-nous par exemple des types de programmes que vous avez eu à développer par rapport à la biométrie.
Oui, nous avons des programmes de reconnaissance de forme à partir des empreintes et à partir de la reconnaissance faciale qui effectivement ont été développés. Et avec cette technologie même...
Et ça s'appelle comment? Parlez-nous de l'un des programmes. Comment vous l'avez nommé?
Donc c'est... Ah bon, on ne lui avait pas donné un nom particulier, mais c'est tout simplement un système de reconnaissance basé sur les empreintes digitales et basé sur la reconnaissance faciale.
Qu'on peut utiliser dans les entreprises, partout.
On peut utiliser ça, par exemple, pour le pointage de la présence des travailleurs dans une entreprise,
oui,
pour savoir à quelle heure ils sont arrivés au service, à quelle heure ils sont partis. Et ça, ça remplace le pointage manuel de présence dans les entreprises.
D'accord. Est-ce que ces programmes sont déjà utilisés ou pas encore? Vous êtes encore à la phase expérimentale avec vos étudiants à l'université?
Nous, avec notre laboratoire, nous le faisons, mais il y a des étudiants qui... Je suis en contact avec eux qui œuvrent déjà dans des entreprises et qui ont déjà commercialisé ça. Et avec toujours l'expertise de l'université derrière.
Et ça marche très bien.
Oui, tout à fait.
Bien, monsieur Jean-Didier Batoubenga, chercheur à l'université de Kinshasa, doctorant en informatique, orientation, intelligence artificielle et biométrie. Merci et à la prochaine.
Je vous en prie, merci à vous monsieur Jordi ainsi que aux chers
auditeurs de Radio Capi.
D'accord. Merci.